En philosophie, il est parfois compliqué d'aborder certains propos, surtout lorsque les commentaires qui sont les vôtres ne partagent pas du sujet traité ce qui en est dit de coutume. L'amour est ce totem par excellence, cette valeur auquel l'on ne doit pas s'attaquer, même si votre descriptif se veut par-delà bien et mal. D'ailleurs, à ce propos, je me suis toujours demandé comment ce cher Friedrich parvenait philosophiquement à analyser le réel en se voulant à son tour par-delà bien et mal tout en se montrant accusateur. J'ai toujours craint que ces recours consistant à montrer du doigt ne soient une espèce d'expédient nécessaire lorsque votre raison s'avère à bout de souffle, incapable d'accompagner une réflexion exigeant pour l'atteindre de se rendre en elle plus loin. Pour avoir aussi, tout au long de ma vie, expérimenté cette manœuvre, ainsi me suis-je à plusieurs reprises voulu cinglant à l'égard d'autrui, lorsque ma petite personne ne s'avérait pas à la hauteur de ce que j'imaginais d'elle, déçu de m'être vu trop beau, j'apercevais le monde plus laid qu'il n'était. À nouveau, tout en sous-entendant Nietzsche, je me montrais humain trop humain. L'amour n'est pas un sentiment comme on en déduit. Convaincu par ses entendus, le décrivant comme tel, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'en usant de l'amour, Dieu est parvenu à prendre sur nous un ascendant spécifique consistant à croire, et pour croire en paix, nous nécessitons un élément nous offrant d'y croire, oublions tout en le requérant, que nous demeurons pour jouir de ses effets à son contact des croyants. Avec l'amour, nous pouvons croire tout en étant persuadés que l'on ne croit pas. Avec l'amour, les églises et autres temples se construisent sans que nous ayons jamais à poser la première pierre. Et pourtant, il suffit de se pencher un minimum sur ces impératifs qui nous conditionnent à nous vouloir amoureux pour se rendre compte que nous ne choisissons pas ce choix en question. Cette constatation s'impose à nous à ce point d'elle-même qu'elle réclame bien plus d'efforts pour ne pas être intégrée. Finalement, sous cet angle, j'oserais dire qu'il est bien moins coûteux d'aimer si on veille à ce que l'amour ne soit pas associé à ces affaires-là. Cette infinie finitude se distingue à nouveau déjà. Mortels, nous rêvons d'éternité, jusqu'à concevoir des sentiments en capacité de ne jamais s'interrompre. L'amour est chargé de survivre à ceux qui l'auront ressenti. Lorsque couchés à même le sol, leur tombe jointe, ceux qui les visiteront auront l'impression, en se rappelant leur attachement, d'une continuité. Cette infinie finitude traduit à nouveau notre incomplétude originelle. La réalité générale ne reconnaît pas cet espace qui lui vaut d'être au sein de notre dimension, comme nous ne retrouvons pas ces étendues au sein de notre réalité. Alors nous inventons-nous des infinis de substitution que nous nous empressons de dire nôtres, la propriété étant une impression de plus, nous communiquons à travers elle celle d'avoir sur le monde les commandes voulues.